I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jerk sandwich.
Hey, listen! Heroes never die.
Caught one. The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool. Did you tie that?
Well, this is a tomb. I'll make him feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Ce soir, je suis en compagnie de Gomeza, Maxime, Queen Apple, Tizona et Lazare. Comment ça va ?
Eh ben ça va et toi ?
Ça va, ça va.
Hello.
Ça va top.
Ça va. Ça va très bien aussi.
Et ce mois-ci, nous recevons Olivia Levé, qui est maître de conférences et conceptrice de jeux. Elle s'intéresse aux œuvres hybrides entre jeux vidéo, art vivant et performance, dans une orientation critique et émancipatrice. Olivia, bonsoir, comment ça va ?
Eh bien écoutez, très très bien, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous.
On va commencer avec la première chronique avec Tizona. Tizona, tu vas nous parler de quelques pixels de travers qui pourraient invisibiliser des récits féminins.
Bon, je tiens à dire que je me suis retenue pendant plusieurs mois avant de placer cette chronique exprès pour attendre le mois de mars et le famoso mois de la femme. Donc du coup, bah, ça, je vais faire un petit peu une rétrospective, hein, désolé, mois de mars oblige. Donc en 2025, bah, les jeux vidéo mainstream et leur réception, bah, ça m'a frustrée comme beaucoup de choses, hein, avec le jeu vidéo. Je doute pas, malgré quelques réserves personnelles, que Dispatch, Expédition 33, j'évite de dire le nom entier pour ne pas me faire strike le podcast à cause d'affaires de copyright très récents. Kingdom Come 2, Death Stranding 2, pour citer les plus connus et les plus présents lors des awards divers et variés du médium, je doute pas que ce soit des mauvais jeux. Pourtant, j'admets que je suis assez fatiguée. J'ai plus trop la force à l'heure actuelle de me plonger dans des énièmes récits, nous projetant dans le point de vue d'hommes blancs hyper hétéronormés, torturés, souvent entourés de demoiselles qui ne sont pas toujours si mal écrites, mais quand même souvent très orientées comme de potentielles sources de romance ou globalement des briques qui contribuent à la construction de personnages masculins. Alors derrière cet état, c'est surtout une forme de frustration, voire peut-être de jalousie que j'ai ressentie. Les derniers jeux cités ont reçu des louanges et moi presque des consensus de toutes parts, que ce soit la presse comme des publics. Et pendant ce temps, d'autres jeux sortaient, des jeux qui mettaient en avant des héroïnes dans des genres de jeux extrêmement variés. Alors c'est pas pour autant des jeux inconnus, bien au contraire pour certains. Alors Will Quack, mais en fait c'est que tous ces jeux, principalement, ont été accompagnés à divers degrés d'un accueil et d'actualité relativement mitigé, pour ne pas dire nécessaire. Mauvais. Metroid Prime 4 et son désert ainsi que ses PNJ très bavards, ce qui est le cas d'ailleurs depuis Metroid Prime 2, mais les gens ne s'en rappellent pas. Hades 2, où l'histoire de Mélinoé était souvent considérée en deçà de celle de son frère Zagreus. Silksong et sa difficulté perçue comme trop souvent injuste, accompagnée par le plus grand débat autour des Pogo Gems auxquels il m'était donné d'assister. Silent Hill F, où apparemment on apprend que Silent Hill ne peut pas être un concept métaphorique qui peut exister ailleurs qu'en Occident. Source t'inquiète, j'ai joué qu'au remake du 2. Ou encore South of Midnight, qui lui a été au mieux invisibilisé, sinon assez critiqué sur son système de combat, alors qu'en vrai son vrai défaut c'est plutôt d'être édité par Microsoft. Je ne parle même pas d'Assassin's Creed Shadows, subtilement accueilli par un mélange qui varie entre misogynie et racisme. Alors seul Ghost of Yotei est resté relativement tranquille, mais on n'a pas non plus laissé une trace indélébile sur 2025. Alors ça n'a pas empêché une vague d'harcèlement vers la voix anglaise du personnage, qui a le malheur d'être une personne non-binaire. Le pire dans tout ça, c'est que la plupart des critiques qui leur sont données, alors sauf celles qui sont réellement misogynes évidemment, elles sont entendables, légitimes, voire parfois assez factuelles. Je pense que même que le fait qu'il y ait des héroïnes a pas forcément et exceptionnellement fait plus de bruit que d'habitude du côté miso. Mais voilà, en 2025, dans une période pivot où l'industrie perd de plus en plus d'effectifs féminins ou adjacents, où les actualités politiques liées aux discriminations de genre sont de plus en plus terrifiantes, bah, ça m'a rendu juste triste qu'on parle pas plus de ces jeux, au moins sur le fond et ce qu'ils ont raconté. Alors oui, je devrais avoir un degré de maturité qui me permet de dissocier les jeux de leur qualité et de leurs défauts potentiels, cependant je suis humaine, et j'ai ressenti une forme d'injustice très personnelle. Est-ce que nous ne gardons en tête que les jeux perçus comme les plus parfaits de 2025, qui seraient bizarrement ceux qui placent le récit d'homme en leur centre? Est-il juste de condamner plus fortement ou d'invisibiliser des récits plus rares, voire précieux, sur l'autel de l'imperfection vidéoludique? Pourtant, parmi les jeux que j'ai cités de 2025, j'ai parfois retrouvé un fil rouge qui traversait plusieurs titres. Je pense que ça a été la première année où des jeux dits mainstream ont parlé à ce point d'un thème que je n'avais pas souvent vu aborder jusqu'à présent, le rapport entre mère et fille. On fait fi des énièmes histoires d'hommes bourrus dont l'évolution est celle d'assumer la paternité progressive d'un personnage féminin plus jeune. Là, on ne prend même plus nécessairement le point de vue de l'adulte, mais celui de l'enfant. En l'occurrence, de la fille envers la mère ou de ses parents. J'ai beaucoup de respect, j'avais pas mal d'attentes envers l'écriture de Silent Hill F, assurée par Ryukishi07, que l'on connaît pour l'écriture des visual novels Umneko no Naku Koroni et Igurashi no Naku Koroni, mais je ne m'attendais pour autant pas à ce que la complexité des rapports familiaux dans un cadre violent et misogyne envers mère et fille soit abordée avec autant, selon mon vécu, de pertinence dans toutes les facettes et paradoxes que cela implique lorsqu'on est victime de violences verbales et physiques dans un cadre familial. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Silksong oriente une partie de son récit sur un parallélisme narratif entre deux personnages et leur rapport respectifs à leur mère, il y a des rapports familiaux et parentaux dysfonctionnels. Et pourtant, c'est écrit par des hommes, hein, tout arrive. J'ai aussi adoré découvrir les aventures d'Azel, l'héroïne de South of Midnight, cherchant à retrouver sa mère avec qui elle partage une relation compliquée, dans un magnifique décor du sud profond des États-Unis, traversant des mythes et légendes de genre South Gothic, le tout en dépeignant des fresques sociales de personnes afro-descendantes américaines. Pour le coup, c'était un scénario qui a été écrit par une écrivaine noire, Zaire Lanier. Bref, j'étais finalement surtout triste, voire jalouse, que ces récits soient enlisés dans des jeux à la réception parfois tiède. Est-ce que ces récits gomment les défauts parfois factuels de ces jeux? Est-ce que les créateuristes n'ont pas une part de responsabilité in fine? Bah, peut-être, dans les faits, oui. Mais ce qui m'attriste principalement, c'est que tous ces personnages, ces histoires, j'aimerais qu'on leur donne une chance. J'aurais aimé qu'on puisse parler de ces derniers comme des exemples d'empowerment, comme on dit, plus que comme des simples vitrines de leur écrin de jeu, souvent imparfaits. Car je pense que... ces messages, ces personnages, ça peut parler à beaucoup de la des frontières de genre, et ça peut aussi constituer des modèles auxquels on peut s'identifier. Alors pour finir sur une note plus positive, sinon, en dehors de la scène mainstream, niveau indé, il y avait des choses très bien quand même. Il y avait Deltarune chapitre 3 et 4, où on suit également les rapports familiaux compliqués sous le prisme du personnage principal non-binaire, mais aussi d'autres personnages féminins du casting qui l'accompagnent. Unbeatable, dont je vous ai parlé la dernière fois, Wonderstop, Ena, Dream Barbecue, The Dark Queen of Mortholm, et d'autres jeux qui alimentent des histoires originales qui mettent en scène des personnages féminins dans des genres tout à fait différents les uns des autres. D'ailleurs, je vous les recommande chaudement. Donc finalement, 2020, c'était quand même pas si pire.
Pardon, j'étais juste surprise de cette fin. J'étais accrochée à tes lèvres et d'un seul coup, paf, c'était fini. Ça m'a fait bizarre. Oui, il y a un côté effectivement triste dans le fait qu'on va oublier tout un tas de propositions qui sont tout à fait intéressantes et surtout au vu de la direction que prend l'industrie des grands studios, etc. On va se farcir des suites et des remakes et des remasters à n'en plus finir, voire des adaptations de jeux vidéo en série, de séries en jeu, en film, en ce que tu veux, en gramophone et tutti quanti, juste parce que c'est des propriétés intellectuelles qui fonctionnent, qui rapportent de l'argent, et donc c'est des assets financiers qui sont demandés j'ai oublié le mot, merde, les décideurs et surtout les financeurs. Et c'est vachement triste, quoi. Plutôt que d'avoir effectivement, je crois qu'il va y avoir une série Bioshock, tu vois. Ça se trouve, elle va être très bien, je veux dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'intéresser un peu plus à ce que nous proposait South of Midnight et d'autres jeux que tu as cités? Et effectivement, c'est un peu, je trouve, la boucle de cette histoire de la créativité qui se fait étouffer par... par l'argent, en fait. Est-ce que le capitalisme ne ruine pas un peu le jeu vidéo? Je vous laisse avec cette question en suspens.
La réponse est rapide, hein, oui. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison sur ça. Et à la fois, la porosité entre les médiums, les adaptations, les remakes, etc., on finit par tourner rapidement en boucle. Il y a le fait qu'il y a pas mal de jeux quand même qui reprennent des choses qui fonctionnent ailleurs. Il y a, comme on a pu en parler hein, au fil des mois, il y a quand même une certaine forme de radicalisation globale et d'une visibilisation de plus en plus des personnes qui parlent beaucoup et à qui on laisse de la place dans la presse, on va dire, vidéoludique, même si on peut appeler ça comme ça. Donc je suis pas extrêmement optimiste nécessairement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à placer, beaucoup d'espoir à placer sur la scène indé, mais on sait que l'industrie elle est extrêmement précaire, même pour des indés qui font ça seuls. Oui, je partage tes craintes. C'est pour ça que j'ai toujours un petit peu d'amertume envers la scène AAA. Et par exemple, quand on voit des titres comme Witcher 4 qui aura un focus sur Ciri, d'un côté, On se dit, bon, bah, ça sera le visage du triple A, voire quadruple A. Mais de l'autre côté, bon, y a toujours un peu cette hypocrisie dans le domaine aussi de l'industrie de se dire, est-ce que ça vaut le coup si derrière, il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sacrifient leur vie en bossant sur le jeu. Et c'est très dur, en fait, d'être cohérent sur la partie sociale et éthique du jeu vidéo.
Je trouve que c'est sur la question de la conception et puis aussi de comment... Parce que là, en vous écoutant parler, je me disais qu'il y a une problématique qui est la diversité au sein des équipes. Même en enseignant là dans une formation en jeux vidéo. Alors, cette année, c'est intéressant parce que c'est la première année où on a plus de filles que de garçons dans les étudiants, ce qui est assez fou que ce soit la première année, en fait. Enfin, il y a vraiment une... Que ce soit au niveau des études, je trouve, au niveau des écoles, et puis après dans les studios, beaucoup de... Enfin voilà, les concepteurs et conceptrices de jeux vidéo se ressemblent, quoi. Mais du coup, je trouve qu'il y a un enjeu à ce niveau-là, et puis que ça passe par tous les niveaux, quoi. Ça passe par les formations jeux vidéo, et puis les personnes dans les studios, et enfin les joueurs et les joueuses, enfin qu'il y a un peu un cycle entre tous ces éléments. Et au niveau des outils, c'est clair que même si à l'origine, il y a un enjeu vraiment de pirater dans les outils, etc. En fait, même les outils maintenant de création de jeux vidéo sont très uniformes, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si on prend Unity ou Unreal, alors même si là, ça va pas nous indiquer les personnages, à quoi ils doivent ressembler, etc. Et quoique, enfin, il y a vraiment, je trouve, une uniformisation, forcément amenée par l'industrialisation, quoi. C'est comment est-ce qu'on produit vite et puis toujours sur les mêmes licences. Et donc, ça, voilà, cette uniformité, ce manque de diversité se fait à plusieurs niveaux, quoi, je trouve.
Donc, merci Tizona pour ton engagement. On va continuer avec Queen Apple. Tu vas, pour compenser la chronique dépressive de Tizona, tu vas nous proposer un micro-trottoir plein d'espoir.
Très joyeux. Oui, bien sûr, évidemment. C'est exactement ça qui va se passer. Je profite de ma petite install pour vous prévenir, disclaimer, vous n'allez pas à nouveau, malheureusement, vous n'allez pas entendre de voix, justement, de voix féminine, avec toutes les guillemets nécessaires. Malheureusement, ça ne veut pas dire que là où je suis allée, il n'y avait pas de femmes, c'est juste qu'elles n'étaient pas là quand j'ai fait mon micro-trottoir, on s'est croisées. Voilà, c'était juste pour prévenir. Alors, vous le savez, normalement, le but de ma chronique, c'est d'aller faire des micro-trottoirs dans des événements ou des conventions et interroger le public qui s'y rend sur l'actu un peu chaude du jeu vidéo. Sauf que cette année, tous les événements habituels ont décidé de changer leur date et je me suis retrouvée sans rien. Non mais les gars, pensent vraiment pas à moi, quoi. J'étais tellement désespérée, non mais dites-vous, tellement désespérée qu'à un moment, j'ai même considéré aller au Pégase, quoi. Non mais je sais pas, enfin, j'en pouvais plus, j'étais vraiment au bout de ma vie. Alors, si vous voulez... Je peux faire comme d'habitude et vous faire deviner où j'étais. J'ai quand même fini par trouver un endroit où aller. Je peux essayer de vous faire deviner où j'étais à partir de l'ambiance, mais ça me paraît compliqué. Je tente quand même, écoutez bien. Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez parler par-dessus. Hein. Ça rigole beaucoup en tout cas.
Je veux dire, ça a l'air d'être très marrant.
Une école privée de jeux vidéo?
Pourquoi je serais allée dans une école privée? Tu crois qu'ils rigolent dans les écoles privées, là-bas?
Ah bah, étant donné qu'il n'y a que des mecs, oui, ça se marre bien, entre mecs.
Ouais, mais il y aurait eu des trucs, j'aurais bipé, quoi. Et non, c'était pas une école privée. C'est une chronique, du coup, un peu particulière, parce que j'ai décidé cette fois de me rendre dans un autre endroit où, pour moi, on célèbre le jeu vidéo. Je suis allée sur un piquet de grève. Et pas n'importe quel piquet de grève. Je me suis rendue sur le piquet d'Ubisoft, ou plutôt d'Ivory Tower, puisque j'habite à Lyon, de février dernier. Alors, mine de rien, il s'est passé 2-3 autres trucs dans l'actualité mondiale entre-temps. Donc, je me permets un petit rappel des raisons qui ont poussé à cette mobilisation avec le discours directement du représentant syndical du STJV d'Ivory Tower.
Alors, à Ubisoft, on est en grève pour 3 jours suite aux annonces de la direction récente sur la réorganisation... du travail à Ubisoft, le retour en full présentiel, et puis aussi l'annulation de plusieurs projets et plusieurs équipes qui se retrouvent impactées en France, mais aussi dans le monde.
Et voilà, en fait, cette mesure du coup de télétravail, en fait, elle va toucher tout le monde, même nos studios à Villeurbanne. Et en fait, on craint que si cette réforme est appliquée, en fait, elle va faire exploser les équipes parce qu'il y a des gens qui vont être forcés de partir, qui ne vont pas pouvoir tenir le rythme de 0 jours par semaine. Donc en fait, à terme, bah, c'est une production de jeu qui se passait pas forcément très bien, qui avait ses défauts, mais qui va être déréglée en fait, une fois de plus.
Et oui, rappelez-vous, les bilans de janvier ont révélé d'énormes pertes financières pour la petite boîte bretonne, ce qui a immédiatement entraîné des annulations de jeux, dont le remake des Sables du Temps, des plans de départ volontaires ou pas, et la fin totale du télétravail, parce que c'est bien connu que c'est en rendant ses salariés malheureux qu'on augmente sa compétitivité. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur Internet, en tout cas.
Nous, on se donne vraiment pour Ubi, on se donne vraiment pour le jeu, on a un projet qui marche bien et on ne reçoit aucun... Voilà, nous, on n'a aucun retour là-dessus. On ne se sent pas récompensé pour notre travail. Et à un moment, on pense qu'on a quand même notre mot à dire sur ce qui se passe à Ubisoft, sur la manière dont ça fonctionne. Et on pense qu'il y a des gros dysfonctionnements, on pense que la direction ne fait pas son travail.
En fait, le modèle d'Ubisoft, il est clairement en crise sur le marché. Et en fait, la seule et unique stratégie de la direction, c'est de perdurer dans ce modèle et de faire payer tous les échecs économiques qui vont avec aux travailleurs, aux employés. Et donc, du coup, on est clairement dans une contraction de la charge, de la masse de salariés. On est dans une dynamique où on va mettre des gens sur le carreau, où on va geler les augmentations, où on va augmenter la charge de travail sur des équipes de plus en plus petites. Et que, en fait, si on se défend pas face à ça, et clairement, l'avenir qui nous est réservé par la direction, c'est du sang et des larmes, en fait. Et du coup, nous, on veut pas de ça, et on veut se battre pour pas juste être sans défense face à ça, quoi.
Alors, ça fait un moment que j'écoute un peu ce que disent les salariés, les travailleuses du jeu vidéo, et leur discours, vraiment, il change pas. Hein. C'est toujours le même depuis des années. Ce sont des gens qui demandent des conditions de travail décentes pour faire les meilleurs jeux possibles. Un dialogue sain entre les décideurs et les travailleuses, et un minimum de liberté artistique, en fait. Et si Ubisoft envisageait juste de se réduire, de décroître ? Non, je vous vois rigoler là devant vos micros, mais est-ce que ce serait aussi inconcevable que ça ? De toute façon, ils annulent leur jeu, ils enregistrent des pertes, ils licencient des gens, donc est-ce que ce serait si incroyable d'envisager d'être moins grosse boîte ? Non, mais d'accord, ok, je m'emballe. Du coup, je vais conclure avec quelques nouvelles du mouvement social, vu que c'était quand même il y a un mois. D'après le STJV, la direction ne semble pas avoir trouvé le temps pour contacter ni ses employés, ni les syndicats pour discuter de tous les problèmes qui ont été évoqués par les travailleuses. En revanche, sachez que Yves Guillemot a pu livrer une longue interview dans Variety, une revue américaine dédiée aux stars du divertissement international, dans laquelle il se fend de préciser que la transparence et le dialogue ouvert avec les syndicats et les équipes d'Ubisoft sont, et je cite toujours Yves Guillemot, le patron au mutisme sélectif, essentiels. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Ubisoft s'écroule, ce sera la faute aux samouraïs noirs. Enfin, je crois. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Merci de m'avoir écouté, en tout cas.
Merci pour ton micro-trottoir.
Mais de rien. Merci aux gens d'avoir répondu. À chaque fois, j'oublie de les remercier, mais merci d'avoir accepté de répondre à mon micro. Et oui, l'ambiance était chouette. Il y avait des chips et tout. C'était trop cool.
Je reviens tout à l'heure, désolée. Hein. Je disais que ça rigolait, mais j'entendais pas les gens qui disaient des choses à côté. Donc voilà, gros soutien.
Mais pas tous.
mais par rapport à ce que tu parles en termes de scope, je trouve que, en soi, oui, mais malheureusement, ils ont tellement le doigt. Enfin, dans l'engrenage, Tencent a récupéré, je crois, 25% des parts maintenant, si ce n'est plus, dans l'entreprise. Et on sait très bien que. Des gens comme Tencent ou autres, c'est jamais très bon signe. Plus ils grattent des parts, plus c'est mauvais augure. Je trouve que ça, par rapport à l'annulation de Prince of Persia, ce qui est assez symptomatique, c'est que des sources qu'on en a de la presse, c'est que le jeu était
presque
était quasi fini. Ouais. C'est de se dire, Ubisoft était à un point de se dire, au-delà d'une prod entière, on sacrifie tout ce qu'il y a jusqu'à le quasi-gold à la poubelle. Et c'est de se dire, mais à quel point une entreprise, pourquoi est-ce qu'une entreprise est prête à mettre autant à pousser autant de moyens, de ressources pour finalement être en capacité de jeter ça à la poubelle, alors que ils ont quand même... Il y a des jeux pas fous qui sont sortis, pas à cause, encore une fois, des salariés, mais à cause des politiques diverses de l'entreprise. Et c'est-à-dire, effectivement, je ne comprends même pas s'il y a une démarche logique qui pourrait être adoptée avec la direction actuelle. de la boîte. C'est toujours extrêmement frustrant et c'est un schéma qu'on retrouve dans énormément de boîtes, qu'on retrouve aussi, je trouve, un peu chez des boîtes comme Blizzard, c'est se dire, mais les gens qui sont dedans et qui travaillent les mains dedans, c'est des gens qui sont extrêmement talentueux, qui font un travail fou, mais qui sont dirigés, comme beaucoup d'endroits en dehors du jeu vidéo, qui sont dirigés de telle sorte à ce que on crache dessus à chaque sortie, alors que c'est des gens qui ont un potentiel incroyable.
Bon, merci beaucoup, Queen Apple. Donc, ton prochain défi, ça sera d'aller sur d'autres piquets de grève faire parler de jeux vidéo. On continue. C'est Gomeza, tu vas nous parler d'une question fondamentale. Est-ce que The Last Guardian passe le test de Bechdel des animaux?
Eh ouais. J'ai enfin regardé une vidéo de la chaîne de Nostalgeek d'il y a 2 ans qui s'appelle « Le jeu vidéo, une affaire d'homme ». L'équipe se pose la question très sérieusement de la capacité à s'identifier ou pas au personnage principal qu'on joue, et notamment selon le genre du personnage. Bon alors, moi c'était carrément un concept du genre que je m'identifie pas, et même je crois que je suis vachement intéressé par tester d'autres formes d'existence que la mienne, genre jouer un archéologue extraterrestre coincé dans une boucle temporelle, une entité informatique qui pirate en rythme, un serpent, je sais pas quoi. Mais pas de peau, je suis bloqué dans un corps humain, le mien, limité par mes propres perceptions. Je pourrais jamais savoir ce que ressent même un autre être humain, malgré tout le vocabulaire d'une langue partagée. On peut mettre des mots dessus, mais les mots, ça reste que des petits cailloux qu'on lance peut-être dans la même direction, mais qui tombent en fait jamais vraiment au même endroit. Alors, l'idée même d'arriver à communiquer avec d'autres personnes non humaines, bonjour. Vous avez déjà essayé d'aider un animal en galère, genre un pigeon avec une patte prise dans un fil, ou un renard coincé dans une clôture? Malgré les intentions altruistes, vous êtes sûrement fait niaquer au passage. Ok, c'est frustrant de pas pouvoir communiquer nos intentions, mais maintenant, imaginez que la bestiole fasse 5 mètres au garrot, 2 tonnes 4 de pression dans la mâchoire, et le machin peut vous casser en deux juste en toussant. Bah ça, c'est le début du jeu The Last Guardian. Et j'ai choisi d'en parler parce que c'est un jeu qui, d'une façon assez rare, a une façon assez rare de représenter cet animal non humain, Tricot donc, qui s'appelle, et qu'on ne joue pas, mais où l'interaction avec lui est centrale dans le gameplay. Et tout ça sans anthropomorphisation, sinon c'est triché. On va le passer au crible, ce jeu, au crible d'un test spécial animaux. Alors, on connaît le test de Bechdel qui propose d'évaluer l'industrie du cinéma, au sujet des personnages féminins, mais là on va utiliser un test proposé par l'Observatoire du spécisme et l'illustratrice Fanny Vaucher, et qui s'appelle le test Simba, S-I-M-B-A. Alors c'est parti. S comme stéréotype. Alors la question c'est, est-ce que les personnages animaux collent aux clichés associés à leur espèce? Par exemple, dans le jeu d'enquête Tales Noir, les personnages sont des animaux anthropomorphes, de différentes espèces, et qui collent à leur connotation. Donc l'enquêteur, forcément, c'est un raton laveur, la bourgeoise facho, c'est un ours blanc, et ainsi de suite. Là, par contre, dans The Last Guardian, Tricot, c'est une chimère, donc c'est un peu un chat, un peu un oiseau, donc il a un peu les traits de chaque animal. Donc, ça tombe pas trop dans des caricatures. Là-dessus, ça va. Ensuite, I. I comme individualité. Alors, est-ce que les animaux sont désindividualisés? J'ai vraiment que des mots hyper compliqués à prononcer. Est-ce que les animaux sont désindividualisés, sans personnalité propre? Est-ce qu'ils servent juste l'objectif d'un être humain? Alors, par exemple, dans Zelda Ocarina of Time, on a plusieurs costumes magiques qu'on peut mettre, et aussi on peut monter sur la jument Epona. Et sa réponse aux ordres de Link était si instantanée qu'elle a même été appelée le costume cheval, c'est pas une blague. Là, on est vraiment sur l'objectification max. Alors, pour Tricot, l'individualité, c'est un peu le point fort de l'œuvre, quand même. J'ai pas souvenir d'avoir déjà interagi de manière si organique avec un animal de jeu vidéo. De m'être confronté à la non-obéissance, non pas par manque de compréhension, mais par volonté propre. La coopération avec Tricot, c'est comme avec n'importe quelle personne, il y a des frictions. C'est difficile de lui faire comprendre ce qu'on attend. Alors, on peut lui mimer, on peut crier, mais même s'il finit par comprendre, peut-être qu'il est en train de faire autre chose, peut-être qu'il a pas forcément envie, en fait, peut-être juste il a faim. Alors, ça prend du temps, ça se négocie, parfois avec des gratouilles. Et Tricot est non seulement une personne, mais en plus une personne qui change. Alors, sans trop spoiler, même si le jeu a déjà quand même 10 ans, au départ, on croise des éléments de décor que Tricot refuse d'approcher, et donc il faut les détruire pour pouvoir avancer. Mais au bout d'un moment, même nous voyant en détresse, de l'autre côté d'un de ces obstacles infranchissables, Tricot va en fait dépasser sa crainte et venir nous sauver. Cette rupture de règles dans son comportement, c'est un exemple de narration par les mécaniques de jeu, qui montre que en fait, son intérêt à nous défendre est devenu plus important que sa peur. Donc, en fait, il s'est attaché à nous. Ça, c'est une évolution de personnage. Donc encore une fois, bien individualisé. Ensuite, on a la lettre M. M comme mémoire de poisson rouge. Alors là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le langage de l'œuvre est spéciste? Alors, je prends l'exemple du jeu Orwell's Animal Farm, donc le jeu de la ferme des animaux d'Orwell, où il y a un cochon qui dit carrément « J'ai connu ce jambon alors qu'il n'était qu'un cochon de lait ». Alors là, on est complètement dans utiliser des termes humains qui désignent des morceaux de leur corps mutilés ou une spécialité culinaire. Ça fait beaucoup penser à la technique marketing qu'on appelle la suicide food, donc la nourriture suicide, quand les animaux sont heureux de leur exploitation, genre la vache qui rit, quoi. Ou alors, typiquement, l'image du petit cochon qui se découpe lui-même, une jambe saucisson, quoi. Dans The Last Guardian, il n'y a pas beaucoup de texte, donc là encore, je dirais, ça passe, parce que j'ai pas trouvé non plus d'utilisation d'expression spéciste. Ensuite, on a le B de Simba, du coup, comme B comme banalisation. Est-ce que l'œuvre banalise la domination des animaux ? Alors là, du coup, j'ai envie de vous renvoyer vers l'épisode 702 du podcast, où je parle des mini-jeux de pêche. En gros, ça dénonce la normalisation d'une torture sur des êtres sentients, comme la chasse ou la corrida. Donc non, c'est pas cosy, la pêche. Et alors, côté tricot, cosy, vous l'avez, les deux personnages, humains et chimères, s'entraident pour s'échapper. Donc là, on peut raisonnablement penser que l'œuvre valorise la libération. Et puis enfin, A comme animaux réels. L'œuvre utilise-t-elle des vrais animaux ? Alors, je pense on peut saluer le jeu Stray, où il y a beaucoup de chats dans le jeu, mais c'est un jeu qui n'a pas eu recours à la motion capture. Ils ont plutôt amené leur chat domestique, leur chat de compagnie, du coup, au studio, et ils ont beaucoup regardé des vidéos de chats sur Internet. Donc pas de motion capture, c'est plutôt cool. Dans The Last Guardian, idem, ils n'ont pas fait de motion capture, ils ont fait de l'animation procédurale, donc c'est encore tout un autre délire, mais du coup, pas de motion capture. Alors, en conclusion, Tricot, c'est un animal hyper crédible, il exprime des envies et des craintes qui sont les siennes et pas les nôtres, des intérêts propres, des priorités qui ne s'alignent pas nécessairement avec ce qu'on a envie qu'il fasse. C'est un être sentient, en un mot, Tricot est une personne. Donc on peut dire que ce jeu passe hyper bien le test Simba. Et maintenant, pour clôturer, j'ai envie de dire, et vous, est-ce que vous pensez à des jeux qui passent haut la patte le test Simba ou au contraire qui se foirent complètement sur ce test ?
Merci pour cette chronique, et effectivement c'est une bonne question qu'on ne se pose pas forcément quand on joue à ces jeux.
C'est marrant, en fait, j'étais en train de penser... Bah, j'ai lancé le dernier Pokémon hier, donc évidemment, c'est un peu voilà, l'éléphant au centre de la pièce, mais en fait, je me disais, c'est fou, parce que même là, ma première réflexion, ça a été de me dire, mais pourquoi ? Parce que donc, on incarne, en fait, Métamorph, mais qui a la forme d'un dresseur Pokémon, et vraiment, je me disais, mais c'est incroyable, en fait, comme même là où ça pourrait être quelque chose d'intéressant, de bah, finalement, en fait, on renverse le truc, et avec une ambition de... Enfin, j'imagine, en fait, derrière, la première chose que je me disais, c'est « Ok, ah bah, c'est intéressant, on va pas juste envoyer des Pokémon au combat et c'est la domination sur les Pokémon. » mais je trouve ça incroyable qu'il y ait quand même eu ce truc-là de dire bah, « En fait, pour incarner le personnage, il faut quand même que ce soit un dresseur Pokémon et retrouver cette chose-là. Bon, » j'ai très peu avancé dans le jeu, donc je sais pas trop vers où ça va, mais ouais, je trouve ça assez incroyable de prendre tout de suite cette direction-là, alors que « Ah, mais il y avait tous les ingrédients pour peut-être faire autre chose. » Donc, ouais.
Mais attends, parce que est-ce que du coup, parce que du coup, ce que j'ai compris, c'est que c'est un jeu Pokémon dans lequel il n'y a pas d'humain. Et est-ce que du coup, même quand il n'y a pas d'humain, il y en a quand même un qui se dit, il faut vraiment que je sois quand même un humain et que je joue à capturer les autres. Donc en fait, est-ce qu'il est un peu en mode suicide food aussi ? Est-ce que lui aussi, il a ce besoin de rejouer la captivité, la capture et tout ça ? Ou c'est juste non
Vraiment là, mon attente, c'est que en fait, pour le moment, ça se passe vraiment. Donc tu ne rencontres que des Pokémon, les humains sont absents. Mais en fait, ils sont vraiment quand même au cœur du jeu, puisque le but, pour le moment, de ce que j'ai compris, est quand même de bah, où sont partis les humains. Voilà, c'est de les retrouver, de reconstruire des centres Pokémon, etc. Donc en fait, ils sont quand même au cœur du... J'irai pas jusqu'à dire le gameplay, parce qu'il y a quand même un gameplay autour des Pokémon, etc. Mais ils sont quand même au centre de la narration. Et il y a cette chose-là de la nostalgie, en fait, du dresseur Pokémon, et donc de prendre la forme du dresseur Pokémon. Et là, j'attends le Pokémon qu'on va rencontrer. J'espère qu'à un moment, il y en a un qui va être vraiment dans une histoire de rébellion, de bah, non, en fait, on n'essaye pas de retrouver les humains et d'être vraiment dans l'ambiance inverse. Mais j'en doute fort quand même.
Alors merci Gomeza, on regardera différemment maintenant les jeux où on joue des animaux ou avec des animaux. On poursuit avec la première pause musicale avec Kitch, composée par Yu Miyake pour l'OST de Tekken 4. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite l'entretien avec Olivia.
Merci Marion et rebonjour Olivia, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Comme on l'a dit on t'avait au début de l'émission, tu es maîtresse de conférence et tu parles de l'hybridation entre les jeux vidéo mais aussi les jeux au sens large avec l'art vivant, donc le théâtre par exemple. Avant de rentrer plus en profondeur dans le sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et nous expliquer aussi comment t'es tombée dans ce mélange en fait entre jeux vidéo et art vivant? Et est-ce que c'est les jeux vidéo qui t'ont mené vers l'art vivant ou inversement, est-ce que c'est l'art vivant qui t'a intéressé aux jeux vidéo?
Ouais, bien sûr. Bah déjà, merci encore pour l'invitation. Sur mon parcours, donc en fait, moi, j'ai fait une formation en art plastique, donc à la fac, à l'université Paul Valéry, dans laquelle j'enseigne maintenant. Donc j'ai fait une licence en art plat et puis un master. Et donc là, peut-être j'en dis un petit mot maintenant, mais notre orientation en fait, ou la particularité de cette formation en art plastique, c'est que le jeu vidéo en fait à l'intérieur est un parcours, donc à la fois en master et puis il y a une licence professionnelle métier du jeu vidéo, donc en une année en fait en licence 3. Et en fait la manière dont on va aborder le jeu est plutôt orientée donc dans ce qu'on appelle le mouvement de l'art game. Donc l'art game peut-être pour mettre un petit peu, même sans trop m'étendre, mais un peu les piliers, c'est en fait de considérer vraiment le jeu vidéo comme un médium artistique. Et donc dans tout ce que ça veut dire, donc ma collègue Claire Sigel travaille beaucoup sur cette question, et donc c'est comment le jeu vidéo peut être expressif, expérimental, parler de sujets d'actualité, être politique, et pas que au niveau de ce qu'il raconte, mais aussi même dans la manière dont il va être conçu, dans le système de règles, etc. Je fais toute cette petite parenthèse parce que donc c'est vraiment là-dedans en fait que j'ai baigné dans ma formation, et c'est presque, même si j'ai toujours joué aux jeux vidéo, hein, quand j'étais petite, je jouais, j'avais plein de consoles à la maison, je jouais avec mes sœurs et mon père. Mais il y a eu, mon arrivée dans cette formation, c'est presque pas faite par hasard, mais c'était pas vraiment ce qui m'intéressait de base. Je voulais pas forcément étudier le jeu vidéo à la base, mais c'est d'un moment, ça m'est apparu comme ah mais c'est trop bien en fait ce médium avec lequel on peut faire plein de choses quoi. Voilà, donc pendant mon master, j'ai co-créé un collectif d'artistes qui s'appelle Gamaturgie. Donc en 2017, ça fait quelques années là qu'on fait plus grand chose ensemble, parce qu'on a un peu pris tous et toutes des parcours aussi, soit au niveau du travail et puis moi avec ma thèse, etc.
Vous aviez créé des jeux ensemble, des jeux qui sont ce lien entre l'art vivant et... Tu peux nous expliquer un peu des exemples de jeux par exemple?
Ouais, alors avec le collectif, on n'était pas trop... on faisait surtout, c'était en fait des jeux de jam, et puis qu'on poussait toujours un petit peu plus loin, beaucoup de jeux d'actualité. Par contre, sur le lien avec les arts vivants, donc c'est une rencontre en fait pendant mon master avec Julien Bouffier, donc qui est un metteur en scène et directeur de la compagnie Adesso et Sempre. Et où là, pour le coup, on a commencé à expérimenter un petit peu autour de plus ce lien entre jeux vidéo et arts vivants. Alors peut-être pour donner un premier exemple, mais lui, il travaille beaucoup avec des systèmes de casques audio. Et le principe, c'est que tout le public a des casques audio et les acteurs et actrices vont déambuler en fait au milieu du public. Et il y a tout un jeu de « on n'entend pas la même chose en ayant le casque ou en enlevant le casque ». Et donc il était déjà intéressé par les questions d'interactivité et ensemble en fait on a commencé à essayer d'expérimenter autour de jeux de pistes par exemple, autour de donc il avait une pièce en gros qui se passait dans un musée où sur les casques on pouvait choisir différents embranchements narratifs, donc on expérimentait autour de ces questions là et voilà, donc c'est comme ça que petit à petit en fait j'ai rencontré le théâtre, même si c'est quelque chose qui m'intéressait déjà, j'allais beaucoup au théâtre, je connaissais déjà bien ce milieu là jusqu'à faire ma thèse donc, que j'ai soutenue il n'y a pas si longtemps en fait. Enfin, ça commence à faire, mais ça me paraît très proche, donc en 2023, qui est une thèse vraiment consacrée à cette question-là de le lien entre théâtre, et plus particulièrement théâtre politique, et jeux vidéo. Quoi.
Donc oui, clairement, il y a ce lien entre jeu et théâtre, et moi je me fais la réflexion aussi que finalement, peut-être que le jeu vidéo, c'est le médium artistique qui est le plus proche du théâtre. Parce que c'est-à-dire que le théâtre parfois laisse la place à l'improvisation et ça rappelle un peu le côté interactif du jeu vidéo finalement. Comment dire, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres points communs comme ça entre le jeu vidéo et le théâtre, au-delà de l'interactivité et de l'improvisation?
Ouais, bah, c'est super intéressant en fait, parce que c'est vrai que le jeu vidéo, dans l'histoire un peu des études autour du jeu vidéo, il a beaucoup été rapproché du cinéma. Il y a beaucoup aussi de. Donc là, dans ce qu'on appelle les game studies ou les sciences du jeu, il y a beaucoup. Au démarrage, en fait, quand le jeu vidéo est vraiment devenu un objet de recherche, l'analyse se faisait beaucoup par le prisme de la littérature, du cinéma. En fait, c'est vraiment presque de. Il n'avait pas sa pleine légitimité en tant qu'objet de recherche. Et donc, c'était comment est-ce qu'on va aborder cet objet interactif. Donc, par la littérature interactive, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en fait, avec le théâtre, moi, au tout démarrage, en fait, ça me paraissait évident qu'il y avait un lien entre les deux, notamment quand on va parler de théâtre politique ou interactif ou participatif qui fait vraiment venir le public. Et c'est ça, il y a la question de l'improvisation. Et puis, moi, ce que j'essayais de m'amuser à faire, c'est un peu de prendre tout le. Comment dire, même l'architecture du théâtre, en fait, la scène de théâtre, les coulisses, le public. Et puis, comment, en fait, tout ça, si on vient le transposer aux jeux vidéo, qu'est-ce que ça nous donne, quoi. Donc, la scène de théâtre qui devient la scène de jeu, les coulisses qui peuvent devenir. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le moteur de jeu qui fait que quand on va appuyer sur un bouton, ça va rentrer en scène. Enfin, un peu toutes ces questions-là. Et donc, c'était vraiment d'essayer de. En fait, finalement, théâtrer le jeu vidéo, mais tu l'as très bien dit, hein, c'est cette question de. En fait, le théâtre, il y a un rapport direct avec ce qu'on regarde quand on est au théâtre. Et le jeu vidéo, en fait, on retrouve ce rapport presque de performance, quoi, enfin, très direct.
Oui,
en fait.
Et puis même, je viens de me dire, si par exemple, un comédien, pendant une représentation. Bafouille ou alors il oublie son texte, on pourrait presque penser que c'est comme un bug dans un jeu, quoi. C'est un peu ça, il y a un peu ce rapport-là, alors que justement le film et le livre ils sont statiques, ils changent pas en fait. Quand on lit un livre ou qu'on regarde un film, ils changent jamais d'un visionnage à l'autre, quoi. C'est vrai qu'il y a ce rapport-là, quoi.
Ouais, c'est ça, on a ce rapport direct et on a ce rapport de. En fait, le public peut avoir une incidence, quoi. Et même si le public d'ailleurs. Parce que là, donc, dans mes recherches, je vais m'intéresser beaucoup à. Voilà, des œuvres qui vont directement faire participer le public, en tout cas du côté du théâtre. Mais en fait, même quand le public ne participe pas, et ça c'est presque ce que je trouverais pas plus intéressant, mais en tout cas qui raconte plus de choses, en fait, même quand le public ne participe pas, rien que le fait qu'il soit présent laisse la porte ouverte à plein de choses, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est ce rapport entre le public et l'œuvre, et comment ce rapport-là, ça peut aussi nous donner des pistes pour repenser le jeu vidéo, en fait. Que ce soit d'ailleurs dans la conception ou dans la manière dont on va penser la scénographie du jeu vidéo. Un jeu vidéo, est-ce que ça doit être jouable de chez soi ou non? Est-ce que ça peut être jouable Enfin, donc là, c'est un petit peu tout ce qu'on trouve dans les contrôleurs alternatifs, par exemple. Mais comment, en fait, tout ce dispositif théâtral, ça peut venir nous inspirer des choses dans le jeu vidéo.
Oui, et ça apporte aussi des nouvelles idées de game design, parce que par exemple, je pense à des jeux comme Among Us, où c'est des jeux multijoueurs, où le joueur doit littéralement, il joue avec d'autres personnes, mais il doit jouer à la comédie en fait, pour essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi ce rapport-là, encore plus clair avec le théâtre.
Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, le fait de. Bah oui, et puis c'est un petit peu ce qu'on va trouver dans le jeu de rôle aussi, cette question de. En fait, dans quelle posture ça va placer le joueur. Et c'est intéressant parce que, en fait, souvent, la manière dont on va relier jeu vidéo et théâtre, et d'ailleurs la manière dont le jeu vidéo va influencer le théâtre aujourd'hui, parce que ça date depuis toujours, en fait. Enfin, la question du jeu au théâtre, elle est là depuis les origines, ne serait-ce que par le jeu de rôle, le jeu d'acteur, etc. Mais récemment, ça commence à faire un peu, mais ça explose un petit peu, notamment depuis le Covid, parce que un moment où en fait des metteurs en scène, des metteuses en scène, des compagnies peuvent plus jouer dans des théâtres, et donc le numérique et même les espaces de jeux vidéo deviennent un peu des nouvelles scènes de théâtre en fait qu'on peut investir. Et je sais plus pourquoi je dis ça, mais oui, donc il y a cette question de, en fait, souvent le lien qui est fait entre les deux, c'est justement pour aller rechercher chez les joueurs. Tout ce qui va être de l'ordre de l'improvisation ou de la créativité ou d'avoir une action sur scène, de comment est-ce qu'il va influencer la narration, etc. Et je trouve que c'est même intéressant d'aller questionner est-ce que même le théâtre ça peut pas être aussi autre chose en fait, juste sur le fait même une passivité où je suis au théâtre et en fait je suis en train d'en prendre un peu plein les yeux et ce rapport de je pourrais agir. C'est, je trouve, ce moment qui est super intéressant.
C'est ce qu'on appelle le théâtre interactif, c'est ça? Ou ça a un autre nom, peut-être? Dire les pièces, les théâtres où le public peut participer à la représentation.
Ouais, c'est ça. Ça a plein de. C'est intéressant comme question parce qu'en fait, ça a plein de noms.
D'accord.
Ça a plein de noms.
Tu peux nous donner des exemples ?
Ouais, complètement. Bah, c'est donc le théâtre interactif, en fait. Ce qu'on appelle théâtre interactif, ça peut renvoyer à plein de choses parce qu'il suffit presque d'avoir un théâtre et puis de dire, OK, comment est-ce qu'il peut y avoir une interactivité avec le public ? Donc, comment est-ce qu'il va pouvoir agir à un moment donné ? Donc, ça peut, j'en parlais, mais ça peut être des pièces en visioconférence. Ce qui explose aussi un petit peu depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle le théâtre immersif. Même s'il y a beaucoup de débats sur est-ce que c'est interactif ou pas, mais c'est des pièces de théâtre, en fait, qui... La compagnie un peu canonique, c'est Punch Drunk, côté anglo-saxon. Mais c'est des pièces où... c'est un peu comme un walking simulator, en fait, où tu vas être dans un immeuble ou dans plusieurs salles. Le public déambule, et en fait, il va vraiment déambuler parmi les acteurs et actrices qui sont en train de réciter leur texte et qui vont parfois avoir des petites interactions avec le public. Et peut-être juste pour sur vraiment mes recherches, le théâtre forum auquel je m'intéresse, donc parce que c'est pas forcément hyper connu le théâtre forum, même si ça commence à se démocratiser pas mal, mais c'était vraiment mon point de départ. Et le théâtre forum, pour le coup, on est vraiment dans du théâtre interactif, dans le sens où le principe, c'est que donc peut-être pour revenir à l'origine, mais ça émerge dans les années 60-70 au Brésil. Donc c'est Augusto Boal qui théorise ça et puis qui le pratique. Et son point de départ, c'est vraiment le théâtre, en fait, doit faire partie de la révolution, doit traiter d'injustice sociale et doit avoir une part politique, en fait. Et donc le principe, c'est juste on va jouer une petite scénette d'injustice sociale qui finit toujours mal. Et puis on va demander au public, OK, bah, qu'est-ce que vous auriez fait pour changer la situation ? En fait, les personnes du public vont venir remplacer un acteur ou une actrice, prendre son rôle en même temps, et puis c'est par improvisation, en fait, on rejoue la scène, et par improvisation, on va essayer de proposer autre chose, et de voir quelle est l'issue, la nouvelle issue de la narration, quoi. Et ça, je trouve ça super fort, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est dans du jeu de rôle, où c'est juste le jeu qui vient amener un débat sur scène, et pour le coup, là, on est vraiment dans une interactivité, quoi. Mmh.
C'est vrai qu'il y a le rapport à l'interactivité qui est forcément en lien avec le jeu vidéo, mais je pense qu'il y a une liberté aussi dans le jeu de rôle et dans le théâtre d'improvisation qui n'existe pas encore aujourd'hui dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo, il a quand même un cadre assez limité, il y a beaucoup d'éléments sont scriptés, les dialogues, ils peuvent pas... les PNJ, par exemple, les personnages non-joueurs, eux ne peuvent pas improviser, donc c'est difficile d'avoir de cette part-là d'improvisation et de liberté dans les jeux vidéo, quoi.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que... l'une des premières théoriciennes à s'intéresser vraiment à la question du théâtre en lien avec l'informatique, donc c'est Brenda Laurel. Et elle, justement, donc son approche, c'est... elle va plutôt l'appliquer sur... Même si c'est une conceptrice de jeux aussi, par ailleurs, mais elle va écrire un bouquin qui s'appelle... Je traduis le titre en français, mais c'est « Les ordinateurs comme des théâtres ». Et en gros, elle va prendre la poétique d'Aristote, elle va essayer de l'appliquer aux interactions avec un espace informatique. Et son but, c'est un petit peu ça, c'est de comment en prenant le théâtre, on pourrait justement repenser des espaces informatiques dans lesquels on aurait l'impression d'être complètement libre de nos actions, en fait, qui est vraiment des interactions les plus fluides possibles. Moi, j'ai presque un point de vue assez critique là-dessus, parce que je vais peut-être pas ouvrir cette grande, grande parenthèse, mais c'est vrai que souvent, en fait, dans les jeux vidéo, de manière dominante, dans les jeux vidéo, l'industrie du jeu vidéo, en fait, on va souvent avoir cette question de comment est-ce qu'on peut faire agir les joueurs, enfin être dans une... On représente des héros qui vont sauver le monde, en fait, d'être toujours un petit peu dans l'action. Et c'est presque une critique qui serait faite au Théâtre Forum aujourd'hui, c'est que le Théâtre Forum aujourd'hui, il est un peu récupéré. Il se joue beaucoup dans des entreprises, pour faire du team building, pour résoudre des problèmes au travail, enfin voilà. Et du coup, c'est un peu de se demander, justement, ce truc de vouloir toujours rendre actif, être dans cette dynamique-là, presque est-ce qu'on pourrait pas proposer autre chose, en fait. Mais complètement, c'est la question de la liberté du joueur, en fait, ou de la joueuse, et comment est-ce qu'on va agir et avoir vraiment un impact dans le monde dans lequel on est. Elle est un peu centrale, en fait.
Et ce que tu dis là, c'est vrai, c'est intéressant. Mais ça, je pense, c'est un problème qui est plus lié à tous les récits en général, hein, indépendamment du médium, c'est que c'est toujours, il faut toujours qu'il y ait un héros et qu'il y ait des péripéties, quoi. Il y a des œuvres qui sont du point de vue, par exemple, d'observateurs qui agissent pas forcément, mais c'est plus rare parce que j'imagine qu'on estime que c'est pas intéressant à raconter, mais ça peut être aussi très intéressant de raconter des histoires comme ça, quoi.
Ouais, complètement. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que donc sur le sur le théâtre forum, moi, c'est vraiment quand j'ai découvert ça, en fait, je me suis dit, mais c'est génial, vraiment. Enfin, donc j'ai commencé à tester du théâtre forum. Et en plus, moi, je suis. C'est en fait, ça peut être. C'est intéressant parce que même quelqu'un qui va pas forcément oser prendre la parole, etc. En fait, il y a toute une logique qui fait qu'on va se sentir à l'aise pour parler, pour prendre la parole, pour prendre un rôle, en fait, sur la scène. Et c'est marrant parce que donc, le fils d'Augusto Boal, Julien Boal, il a justement un point de vue assez critique là-dessus, où il a donc écrit un bouquin qui s'appelle. Je veux pas écorcher le nom, mais c'est. Je pense Théâtre de l'opprimé, autant néolibéraux. En français, et où justement il est sur cette question de bah, finalement théâtre forum aujourd'hui c'est beaucoup détourné, utilisé en entreprise, et sa question c'est pourquoi ça se fait si simplement, en fait pourquoi ça marche si bien d'utiliser le théâtre forum en entreprise. Et je pense que c'est un petit peu ça, c'est parce que bah, de toute façon il y a souvent une récupération en fait de choses qui pourraient être un peu critiques, c'est toujours récupéré en fait.
Oui, je pense que ça véhicule aussi des idées de méritocratie, de surpassement de soi. Et donc forcément, le capitalisme se retrouve très facilement là-dedans. Oui,
exactement.
Et on parlait de la liberté dans les jeux vidéo qui était compliquée à mettre en place par rapport à l'improvisation théâtrale. Et malheureusement, moi, ça me fait penser à des trucs qui me vendent pas du rêve. Hein, parce que c'est des démonstrations de dialogue de personnages non-joueurs générés par intelligence artificielle. Et... Bon, c'est sûr que ça crée une infinité de possibilités, mais je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi je pense que si c'est pas écrit par des êtres humains, ça n'a aucune substance et aucun message intéressant, quoi.
Mais c'est vrai que, et ça c'est marrant parce que donc le boom de l'IA un peu est arrivé après ma thèse, quoi. Et j'avais un peu ce truc, donc vraiment ça me trotte en tête de me dire « Ah ouais, mais en fait les possibilités avec ça », et en fait je suis complètement d'accord avec toi. Justement, c'est pour ça aussi que la relation entre théâtre et jeux vidéo, je ne l'ai pas nécessairement, même dans mes créations, en fait, dans ce que je vais créer autour de ça, pas forcément penser sur comment donner plein de liberté au joueur ou à la joueuse, parce qu'il y a un peu cet enjeu de dire bah, « Finalement, quand on crée une œuvre, c'est en tant que concepteur ou conceptrice, qu'on soit solo d'ailleurs ou en équipe, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans et comment est-ce qu'on veut y mettre une intention, un discours, comment est-ce qu'on va raconter une histoire. Et que ce soit, oui, par intelligence artificielle ou même en fait de laisser souvent ce qu'on va appeler des mondes ouverts, mais c'est très dur en fait de garder une cohérence narrative et de garder un fil rouge qui soit qui fonctionne bien en fait, qui ait vraiment un impact, tu vois. Dans des choses où finalement on va essayer d'aller vers le plus de liberté possible. Donc oui, c'est une vraie question, parce qu'en même temps, ce qu'essaye de faire Augusto Boal et mon intention au démarrage de mes recherches, c'était justement ça, c'était comment est-ce qu'on peut émanciper les joueurs et joueuses en s'inspirant du théâtre. Bon, l'émancipation, ça passe aussi par cette prise de liberté dans un système. Donc ouais, c'est une vraie question, ouais.
Bah, surtout que les joueurs aussi, ils ont toujours tendance à vouloir tester les limites du jeu. C'est-à-dire que si on les met dans une situation, ils vont vouloir voir s'ils peuvent, par exemple, tuer un personnage important. Ils vont essayer de le tuer en le tapant, par exemple. Et c'est vrai que du coup, on se rend compte que peut-être qu'il y a cette envie aussi chez les joueurs de plus de liberté, mais c'est difficile de la mettre en place tout en gardant une cohérence narrative, quoi.
Ouais, complètement. Et il y a aussi tout ce qui est... ça paraît, c'est quelque chose que j'ai pas trop exploré. Mais c'est resté une petite frustration à la fin de ma thèse, et peut-être j'aurais envie d'aller aussi un peu par là, mais c'est même la question des modes en fait, et des... enfin, voilà, de comment des joueurs et joueuses vont à un moment jouer à un jeu et puis s'en saisir et commencer à faire d'autres choses avec, quoi. Donc le moder, essayer de on parlait du piratage, quoi, mais c'est le pirater, d'en faire autre chose, de raconter autre chose. Et je trouve que ça, alors peut-être on s'éloigne un peu du lien même avec le théâtre, mais pas totalement, parce que le théâtre vraiment interactif ou d'improvisation, il y a un peu cette idée-là, quoi. C'est comment à un moment le public, il va pouvoir s'en saisir et faire autre chose, quoi. Donc ouais, ça c'est un truc que j'ai pas trop exploré, mais qui serait aussi une piste, quoi.
Ouais. Et de façon un peu plus premier degré, est-ce que toi tu... Parce que là on parle de... Comment dire, de la façon dont on joue au jeu qui se rapproche du théâtre, mais est-ce que pour toi il y a des jeux qui représentent bien le théâtre? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre par exemple un jeu dont la thématique en fait est de parler de théâtre, est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà rencontré, toi?
C'est intéressant parce que en fait je me suis pas, presque je l'ai fait aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que je me suis pas tant intéressée à des jeux vidéo qui parleraient de théâtre, Vraiment en mode premier degré. Mais en fait, le premier degré est intéressant aussi, hein, parce que ça raconte plein de choses. Et pareil, j'ai mis un peu de côté dans mon corpus tout ce qui va être pièces de théâtre qui parlent spécifiquement de jeux vidéo.
Oui, c'est du coup, les, par exemple, les performances, est-ce que ça rentre là-dedans?
Ouais, alors les performances, les performances, c'est un peu à la frontière. Parce que
est-ce
les
que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est les... Oui, voilà, nous expliquer un peu ce que c'est les performances.
Les performances, en fait, ça va être vraiment l'idée de... En fait, le fait de jouer aux jeux vidéo devient une performance en soi. Donc, ce qui est super intéressant parce que ça va... En fait, le jeu vidéo devient une matière qui va être un peu la base de comment est-ce qu'on construit en fait quelque chose dessus. Donc ça, c'est super intéressant. Pareil, je l'ai mis un petit peu de côté. Parce que ça, ce qui m'intéresse, pas parce que ça m'intéressait pas, hein, parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur, mais j'étais plutôt sur ok, comment est-ce que on peut vraiment presque trouver dans l'interaction, enfin dans la manière dont on crée le jeu vidéo ou dans la manière dont on va créer le théâtre, comment est-ce qu'on peut avoir presque un transfert d'outils en fait. Donc c'est par exemple se demander la résidence en théâtre, la résidence de création en théâtre, ou le fait de créer au plateau, ou le fait de faire un ce qu'on appelle un bord de plateau. Donc un bord de plateau, c'est à la fin d'une pièce, les acteurs, actrices, et puis le metteur en scène ou la metteuse en scène qui dialogue en fait avec le public. Est-ce qu'il y a des outils comme ça qui pourraient, dans le jeu vidéo, en fait, créer autre chose, quoi. Et peut-être, du coup, pour répondre à ta question, mais un jeu vidéo, pour moi, qui m'a beaucoup intéressé en tout cas, et qui est pour le coup pas du tout premier degré sur le théâtre, mais c'est le jeu Her Story de Sam Barlow. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que... Alors, ça pourrait être premier degré parce que... Donc pour les personnes qui connaissent pas peut-être, mais en fait, on va naviguer dans une base de données qui renvoie à des vidéos. Et donc, les vidéos, c'est des entretiens filmés avec une actrice. Une actrice en vrai. Dans le jeu, c'est pas une actrice. Et nous, en fait, on va enquêter sur... c'est une histoire de meurtre. Et donc, on va juste taper des mots-clés dans une base de données et regarder les vidéos. Et je trouve que là, pour le coup, il y a un peu cette chose-là de... en fait, pendant plein de temps, on est juste face à notre écran et presque on lâche la manette et on regarde ce qui se passe. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a quelque chose de très théâtral qui se passe, c'est-à-dire que... Enfin, voilà, il y a une espèce d'intimité avec l'actrice. En fait, on va écouter ce qu'elle nous raconte. Et puis, il y a des moments où on va pas pouvoir avoir une action qui est presque assez limitée, mais en fait, qui va permettre de... même pas changer la manière dont l'histoire termine, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est juste explorer différemment la base de données. Mais je trouve que là, pour le coup, juste dans le rapport en fait, du spectateur-joueur avec l'actrice, je trouvais qu'il y avait quelque chose de super intéressant, en fait.
Ok. Et moi, je viens de penser à un truc, je sais pas si ça te parle, mais il y avait le jeu Princess Peach Showtime de Nintendo. Qui en fait, c'est littéralement un jeu dans lequel on incarne la princesse Peach, et tout le jeu c'est sur une scène en fait. C'est sur une scène et le décor change en fait à l'arrière, comme sur une vieille pièce, une vraie scène de théâtre quoi.
ça me dit rien du tout.
Et voilà, pour le coup, c'est vraiment premier degré, tout le jeu est une pièce de théâtre en fait.
Mais ça, c'est intéressant aussi, parce que donc, dans la manière dont les décors vont changer, dans la manière dont les scènes vont s'enchaîner, du coup, on a quelque chose qui prend du théâtre quoi. Oui. Après, c'est... Donc, là, on parle vraiment de jeux vidéo spécifiquement, mais quand on parlait de performance tout à l'heure, où j'ai évoqué un petit peu les contrôleurs alternatifs, mais c'est qu'il y a plein de formes comme ça, un petit peu hybrides, qui viennent à la fois du jeu vidéo, qui viennent à la fois, pas directement du théâtre, mais en tout cas qui vont vraiment s'inspirer de même la performance en art, par exemple. Et ça, pour le coup, c'est...
Oui, parce qu'après, on peut aussi explorer tout ce qui est tous les jeux en réalité virtuelle, le motion gaming et tout ça, c'est encore...
Ouais, c'est ça.
C'est très large,
exactement.
Quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, même un des collectifs très, très connus, un peu pionnier dans cette relation jeu-théâtre, ce serait Blast Theory. Qui mettent beaucoup en place de. Donc voilà, c'est beaucoup d'expérimentations, mais des jeux de pistes urbains, des choses comme ça, où d'un coup, on est un peu à la frontière entre les deux, quoi. On est dans un milieu complètement physique. On va interagir directement avec les joueurs et joueuses. En même temps, on a une interface sur écran. Enfin, toutes ces expérimentations, elles sont vraiment au carrefour entre les deux, quoi.
Écoute, je crois qu'on a un peu parlé de toutes les... En tout cas, je t'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser et c'était très intéressant. Je te remercie.
Merci à toi.
On va continuer évidemment après avec les questions et les discussions de toute l'équipe. Nous allons écouter Cloak, composé par C418 pour l'OST de Wonderstop. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Olivia pour la suite de l'entretien. Dans un premier temps, Olivia, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau de Wonderstop ?
Déjà, Wonderstop, quand j'ai joué à ce jeu, il m'a vraiment marqué, touché à plein d'endroits. Peut-être pour les personnes qui ne le connaissent pas forcément, mais c'est un jeu de Davey Redden, donc qui est aussi l'auteur de The Stanley Parable, entre autres. Et Wonderstop, donc c'est en deux mots, mais c'est en gros, on incarne Alta, qui est une guerrière qui d'un coup ne peut plus avancer, c'est-à-dire son épée devient trop lourde, donc on la voit courir en forêt et puis elle peut plus avancer. Sans spoiler trop le jeu, mais elle se retrouve en fait à faire une pause dans un salon de thé et puis à servir le thé aux clients, clientes de passage. Et donc il y a tout un discours qui est assez métaphorique sur le burn-out, le fait de plus pouvoir, d'un coup en fait de refuser d'être dans une espèce de surperformance. Et puis tout le jeu vient raconter un peu ce parcours-là en fait donc qui est en plus avec différents chapitres, je veux pas trop en dire, mais c'est un jeu assez incroyable que je recommande chaudement. Ce qui m'a intéressé c'était justement ce lien un peu dont on parlait tout à l'heure, mais avec les valeurs, ou en tout cas les procédés, les mécaniques qui sont majoritairement présentes dans les jeux vidéo, qui sont de l'ordre de incarner des héros qui vont sauver le monde, être dans une logique de surperformance, agir en permanence, et en fait c'est des choses qu'on va essayer parfois de retrouver dans les liens entre jeux vidéo et théâtre. Et moi justement ce qui m'intéresse beaucoup dans ma pratique et puis dans le mouvement de l'art game aussi, il y a cet enjeu là de comment on va proposer autre chose en fait, comment on va prendre un peu un pas de côté, comment est-ce qu'on va sortir de ces codes là et je trouve que ce jeu le fait magnifiquement bien parce que il y a vraiment cette question d'un peu nous attraper avec cette question de on arrive dans un jeu un peu cosy, on a l'impression d'avoir un gameplay très classique de on va faire du thé, servir du thé. Moi je suis une très bonne cliente au jeu cosy donc je plonge dedans. Et puis en fait finalement il y a vraiment un discours derrière, il y a tout un retournement, ça raconte autre chose donc c'est un jeu vraiment je vous conseille d'y jouer et je trouve qu'il représente assez bien tout ce qu'on va pouvoir, tout ce sur quoi en tout cas j'essaye plutôt d'aller vers le jeu vidéo quoi.
Ok, ouais, super, ça donne clairement envie d'y jouer, surtout en ce moment, quand on a besoin de se détendre un peu. Donc merci beaucoup pour cette recommandation. Maintenant pour la suite, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des remarques ou des questions à poser à Olivia ?
Oui, c'était parce que du coup, effectivement, moi je suis pas du tout connaisseur de l'univers du théâtre, et effectivement, je parlais des performances parce que j'ai eu la chance d'assister aux premières performances, et depuis 4 ans, je crois que j'en ai loupé presque pas, parce que vraiment je trouve ça méga intéressant, mais j'ai l'impression que c'est pas exactement du coup le sujet dont il est question, et je me demandais si... j'ai vu un truc qui peut-être ressemblait un petit peu à ce dont tu parlais, qui s'appelait Try Hard. Je sais pas si tu vois ce spectacle.
Ouais, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, ouais.
Donc Try Hard de Samuel Aquil. En fait, toute la salle a un petit pupitre, on va dire, avec une souris. Et en fait, on se retrouve à jouer à un espèce de truc tous ensemble avec notre petite souris dans la salle. Sur un écran, et c'est difficile à décrire, c'est même difficile à se rappeler ce qui se passait, mais en gros c'était une sorte de méga jeu de captcha avec toute une salle qui avait chacun sa petite souris, et c'était hyper intéressant comment du coup chacun s'emparait ou pas de son pointeur qui était parfois un peu mis en avant, parfois pas, parfois on était juste un groupe. Je sais pas si ce genre d'expérience là ça rentre un peu dans ce dont tu parles, parce que j'ai un peu ouais. Du mal à cerner un petit peu ta zone de recherche, en tout cas ta zone de... Mmh. Ouais, enfin tout ça, c'est très nébuleux, désolé comme
question. Non, t'inquiète, si ça rentre complètement dedans, je pense que la difficulté à cerner, c'est aussi que, donc moi dans mes recherches, en fait, je me suis intéressée un peu, un de mes enjeux, c'était comment est-ce qu'on peut faire une typologie, justement, des expériences entre théâtre et jeux vidéo, qu'elles soient d'ailleurs plus proches du jeu vidéo ou plus proches du théâtre, et en fait c'est très large, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a Celia Pierce, donc qui a créé une communauté reliée à l'Indiecade, donc Indiecade Festival de jeux vidéo indépendants, et qu'elle a nommé le Playable Theater, justement, donc le théâtre jouable, et où l'enjeu, c'est de réunir plein d'artistes, plein de concepteurs, conceptrices, qui viennent du théâtre ou d'ailleurs, autour de cette question de... Et donc la définition qu'elle en donne, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu lointain, mais ça va être des événements en fait, dans lesquels le public peut influencer directement la narration. Donc oui, ça rentre complètement dedans. Moi, peut-être pour être un peu plus précise, je vais essayer de le faire un peu vite, mais en gros, ma recherche, c'était une création recherche. Donc c'est-à-dire que tout mon terrain d'étude, en fait, c'était un jeu que j'ai réalisé pendant tout le temps de ma thèse. Et donc, je travaillais beaucoup sur l'escape. Enfin, je suis partie de l'escape game, en fait. Et mon point de départ, c'était d'inviter les joueurs et joueuses à venir dans un faux studio de jeux vidéo. Donc, j'avais fait dans le garage de mon père, pour tout raconter, mais j'avais fait une scénographie, en fait, un peu caricaturale d'un studio de jeux vidéo assez dystopique, une start-up voilà, qui serait complètement dystopique. Et où, en fait, j'ai invité les joueurs et joueuses à incarner des narrative designers dans mon faux studio. Et puis, je m'inspirais du théâtre forum avec une première partie où, en fait, je leur demandais de suivre vraiment un cahier des charges avec des objectifs impossibles à atteindre, des deadlines très rapides, le fait de... voilà, une espèce de pression. Et puis, la deuxième partie, en fait, avec tout un jeu d'énigmes, de choses à résoudre, l'enjeu était qu'ils sortent justement de ces injonctions et qu'ils essayent de trouver des brèches dans le système de jeu pour proposer d'autres choses, en fait, pour essayer de pirater le studio, je sais pas comment le dire autrement, mais proposer d'autres choses. Et ça, par exemple, moi, c'est une forme qui m'intéressait, parce que, alors là, pour le coup, on n'a pas de public, donc on n'est pas exactement dans ce que tu décris, et pas exactement dans plein d'autres formes de théâtre interactif. Mais justement, ce qui m'intéressait, c'était comment, en fait, je peux amener mes joueurs et joueuses dans un lieu. Je les amène à jouer à un jeu parce que donc il y avait un écran sur lequel ils devaient travailler. Je ne sais pas comment le dire autrement, travailler ou jouer. Et donc, c'était comment, en fait, mon jeu, il n'est pas jouable n'importe où, mais il est dans un espace à un moment donné. Il a un début et une fin. Et je vais pouvoir dialoguer avec les joueurs et joueuses. Et c'était ça qui m'avait inspiré du théâtre. C'était de me dire, le théâtre, en fait, tu te rends au théâtre, tu vas voir une pièce, et puis tu peux discuter avec les personnes qui l'ont réalisé. C'est cantonné à un moment. Et moi, je me suis dit, je m'inspire de ça, je prends le système du théâtre forum, et j'essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire avec mes connaissances de jeux vidéo, comment est-ce qu'on peut faire autre chose. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est sûr que c'est très large, en fait, les dispositifs entre théâtre et jeux vidéo. Et moi, mon point de départ, c'était vraiment de... comment est-ce que, même dans tous ces dispositifs, comment est-ce que moi, je peux me saisir d'éléments dans ma création, en fait.
Marion, tu avais une remarque ou une question ?
Oui, je me demandais s'il y avait un autre axe que tu avais travaillé là dans tes travaux. Parce que en pensant théâtre et jeux vidéo, je pensais aussi e-sport du côté, enfin avec la question des spectateurs en fait, puisque dans le théâtre il y a toujours la question, tu l'as dit, la participation des spectateurs, est-ce qu'ils sont juste assis sur leur chaise ou plus participatifs, etc. Et donc je me demandais si tu avais envisagé des liens avec la question de l'interaction entre joueurs et spectateurs avec le e-sport.
Non, je ne l'ai pas étudié. Je l'ai pas étudié, mais oui, il y a aussi cette question de l'e-sport, il y a la question de Twitch aussi. Regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo. Je trouve que c'est un petit peu ce qu'on... Enfin, en tout cas, presque dans ma typologie, là, je le mettrais presque du côté playformance, même si en fait les playformances, il y a un enjeu de produire une forme artistique, donc qui est super intéressante. Là où Twitch, et pourquoi pas. Enfin, Twitch, on pourrait très bien... j'ai en tête Twitch Plays Pokémon là, mais c'est pas une forme artistique, mais en tout cas, on peut très bien avoir des formats sur Twitch qui sollicitent le public, qui vont avoir un impact direct dans ce qu'ils voient. Même juste de regarder des streamers parfois et d'avoir juste le fait de le public peut voter sur Twitch ou le, enfin voilà, tous ces éléments là en fait, c'est des éléments que je trouve super intéressants. Mais non, j'y suis pas allée du côté de l'e-sport. Peut-être parce que c'est un peu plus éloigné un peu plus éloigné du corpus vraiment de base que j'avais, qui était très très collectif d'artistes, théâtreux. D'essayer de voir, de le resituer un peu dans une histoire de l'art. Même si évidemment, ça y touche complètement et je trouve qu'il y aurait plein de choses à en dire aussi, quoi.
Eh bien, encore merci beaucoup, Olivia, pour tous tes éclaircissements sur ton travail. C'était un plaisir de discuter avec toi. On passe à la suite avec la chronique de Marion.
Merci, Maxime. Alors, il est arrivé que je vous parle, dans la population de patients que je reçois, d'adolescents en grand questionnement par rapport au monde qui les entoure et à la possibilité d'envisager un avenir dans ce monde. Bon, aujourd'hui, en plus, on peut se dire que c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. J'ai remarqué que ces adolescents étaient fortement intéressés par des univers dystopiques, par des scénarios de cataclysme, d'effondrement et de fin du monde, qui leur permet de penser, de se poser des questions, de poser des questions aux autres et finalement de se projeter. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Golf Club Wasteland, un jeu qui a intéressé Chiara, une adolescente de 18 ans, lycéenne, complètement perdue dans le monde dans lequel elle doit évoluer et donner des réponses, notamment en termes d'orientation. Le fameux Parcoursup hein, que tout le monde connaît ou au moins a entendu parler. Golf Club Wasteland, c'est la première création du studio Demagog Studio en 2018, édité par Untold Tale. C'est un jeu original puisqu'il s'agit d'un parcours de golf post-apocalyptique. Plus précisément, dans un futur dystopique, la Terre en ruine est une immense décharge contaminée. Aussi, les problèmes écologiques ont amené à l'exil des humains, enfin des plus riches, à Tesla City, sur la planète Mars. Mais les gens s'ennuient sur la planète, et de fait, la Terre devient un terrain de jeu, plus précisément un terrain de golf, un golf de désolation pour les ultra-riches qui voyagent. Alors, avec une combinaison jaune anti-nucléaire et un jetpack, on peut, dans ce jeu, swinguer dans des décors post-apocalyptiques. Ça fait envie, non ? Golf Club Wasteland possède un gameplay très épuré, classique dans les jeux de golf, pas si différent finalement des premiers jeux de golf auxquels je jouais, enfant, à la souris sur mon Atari. On oriente la balle dans la direction souhaitée, on dose la puissance de la frappe et on gère l'angle de tir. Seul le level design amène à réfléchir pour trouver des stratégies pour passer dans les conduits d'un tuyau, ricocher contre une paroi ou contre une girafe, et oui. Ce jeu de golf est donc l'occasion de se retrouver avec ma jeune patiente Chiara dans des usines ou dans des centres commerciaux abandonnés, dans des bouches de métro en ruine, dans des paysages mêlant des teintes bleutées et des lumières rosées qui accentuent l'illusion de fin de monde. Ce jeu impose aussi un spectateur secret, mystérieux, qui nous observe de loin. L'ambiance est aussi beaucoup liée à la bande-son, celle de Radio Nostalgia from Mars. L'animateur est présent dès notre atterrissage et lance des témoignages qui s'enchaînent à l'antenne dans tout un tas de langues. On comprend alors les conditions de vie précaires des Martiens modernes. On a aussi des interviews d'auditeurs qui regrettent la Terre d'avant sa chute. Ils racontent leurs souvenirs de la planète bleue, leurs anciennes habitudes, leur ancien travail, ce qu'ils appellent la grande catastrophe, ou ils peuvent parler d'anciennes relations amoureuses. Évidemment, on entend aussi des messages de sécurité martienne, je vous laisse imaginer, et aussi des publicités et la propagande d'une vie meilleure, mais moins permissive. À vous de choisir. Entre deux anecdotes ou discours, la radio diffuse des morceaux de styles différents. Il y en a pour tous les goûts, électro-progressif façon années 90, jazz, trip-hop, pop anglaise, fado, etc. Chiara, cette adolescente de 18 ans, se saisit vivement du fond du jeu, qui sous prétexte de golf, participe à une dénonciation politique de notre monde. Souvent, elle fait des pauses dans ses swings pour écouter la radio. Elle va commenter, parler de son propre rapport à la nature, de l'écologie, de ses craintes pour la planète. Les plaintes qu'elle peut adresser aux adultes, à ses parents, en lien avec son impuissance, sont largement centrées sur l'avenir de la planète. La sensation d'être abandonnée par son père, par exemple, qui lui dit « on ne peut pas t'aider » quand elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Ces éléments-là viennent rencontrer sa colère vis-à-vis de ses parents et des générations antérieures qui ont détruit la planète. « Dans ma filière, dit-elle, on parle tout le temps d'écologie. J'ai l'impression qu'on ne parle que de la fin du monde. » Son discours est assez négatif. Quoi qu'on fasse, il n'y a pas d'issue. Ce discours, c'est un apparent reflet du discours de son père, qui à la fois la fige et la met en colère, surtout quand il lui répète « Nous, on a cassé la planète, c'est à vous de la réparer. Si vous n'y arrivez pas, c'est la fin du monde. » Chiara conclut résignée en disant que l'avenir est sur leurs épaules, que c'est comme une mission. Elle m'explique que c'est la mission principale de sa vie, qu'elle aurait l'impression de rater quelque chose sinon. On voit bien que là, la question de Parcoursup est un peu annexe. Toutefois, l'ampleur de cette mission l'angoisse. Elle me dit « à quoi bon bouger les choses ? C'est foutu. » C'est à partir de nos échanges sur sa mission que Chiara arrivera à se sentir plus légère et commence à avoir d'autres rêveries. Le jeu Golf Club Wasteland a permis de mettre en forme certaines de ses préoccupations, justement en se rendant compte qu'elle n'inventait pas tout, qu'il y avait bien une réalité partagée dans ses inquiétudes. Ceci rejoint bien évidemment d'autres chroniques que j'avais pu faire dans Une heure et des pixels, par exemple, quand j'avais évoqué le jeune qui voyait la pollution dans Spirit of the North ou cet autre qui jouait dans The Cube, l'enfant resté sur la Terre après l'apocalypse. En réalité, Beaucoup de jeux aujourd'hui mettent en scène ces thématiques, ce qui n'est pas sans intérêt pour aborder ces sujets sensibles avec les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Bon, j'ai perdu tout le monde.
Ouais, non, c'est...
Oui, Olivia.
Ouais, merci beaucoup pour la chronique. Enfin, pareil, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, toute ta démarche, en fait, autour du jeu vidéo, je trouve ça assez génial. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion, là, sur l'idée du jeu, comment ça va être un espace où on peut se réfugier et tout ça. En fait, moi, je sais que j'ai un peu de... Enfin, parfois, en fait, le jeu vidéo va vraiment être juste... Là, je ne veux penser à rien, je vais me plonger dans un jeu. Mais c'est vrai que les jeux, il y a quand même... Et puis, je trouve ça intéressant, c'est aussi ce qu'on met dans les jeux et comment est-ce qu'on parle de la politique aussi, parce que je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir des jeux qui vont donner de l'espoir, en fait. Enfin, d'avoir pas juste des jeux. Et ça, c'est marrant, parce que souvent... Alors, j'ai pas d'exemple là qui me viennent tout de suite, mais les jeux vidéo, il y a parfois quelque chose de quand un jeu vidéo va se saisir de politique, de quelque chose qui va être très dans la critique, et ce qui est nécessaire, mais du coup, c'est comment est-ce que de cette critique, on part vers quelque chose qui est de, comment on agit, en fait, comment est-ce qu'on peut, à quoi ça nous amène, et puis, être aussi sûr de donner envie, en fait, et cette chose d'espoir, quoi. Alors, ce qui peut être... peut-être autour du jeu, enfin, c'est-à-dire le jeu pour parler d'un sujet, aborder un sujet, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait. Mais je trouve que... c'est marrant, Wonderstop, je trouve qu'il y a un peu cette chose-là, en fait, de... C'est pas... en fait, c'est un environnement qui parle de choses qui sont dures, mais où, en fait, le jeu, on... nous met vraiment face à ça et nous amène presque à vouloir agir, faire quelque chose. Et je trouve que c'est assez joli, en fait.
Alors, maintenant, c'est l'heure de la discussion. Lazare, tu vas l'animer en parlant de Mothership, le média vidéoludique féministe, ce qui est normal pour ce 8 mars.
Dans une publication datant de plusieurs années, l'un de nos anciens chroniqueurs saluait la création de deux nouveaux médias vidéoludiques indépendants, tout en regrettant que les femmes n'aient toujours pas leur place dans ces médias. En effet, le premier, le plus connu, ne comptait qu'une femme parmi ses 5 fondateurs, l'équipe compte aujourd'hui un tiers de femmes dans l'équipe, et les seconds n'en comptaient aucune parmi ses 5 fondateurs, aujourd'hui le site référence 3 femmes sur 18 membres de l'équipe. Nous sommes en 2026, et si l'industrie vidéoludique s'est grandement diversifiée avec seulement 66% d'hommes contre 94% il y a presque 20 ans, bien qu'elle connaisse un sérieux backlash, en particulier aux USA, il semblerait que les médias spécialisés autour du jeu vidéo, eux, continuent à rester un milieu d'hommes majoritairement blancs ou perçus comme tels. Et puis, le média Mothership a atterri sur notre planète. Dans un article du Guardian intitulé « Pourquoi je lance un site web féministe autour du jeu vidéo en 2026 ?», Maddie Myers, une ancienne de chez Polygon, revient sur la genèse du média qu'elle a fondé avec Zoé Hanna. Elle y explique que l'état actuel de l'industrie et de la profession de journaliste spécialisé, sa récupération politique par la manosphère et l'impression que les gamer-gaters, que j'appelle personnellement gamer-gâteux, ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient, avait fait de l'industrie du jeu vidéo un « ragoût de malheur » pour les personnes queer et féministes, et que tout cela appelait un besoin urgent de voir quelque chose de différent se créer, un « teen vogue » du jeu vidéo. Puis elle revient en profondeur sur son parcours, sur les étapes et difficultés rencontrées, ses doutes, mais aussi et surtout sur la certitude qu'elle avait que le public existait, qu'il était là, et qu'il n'attendait qu'une chose, un média réellement à leur image, à savoir, et je la cite, « éloigné du moule normatif de la masculinité et du hardcore gamer que le marketing et la pop culture nous servent depuis les années 90 ». Fin janvier, le site web indépendant comptait plus de 1200 abonnés, preuve que le public est, comme elle le ressentait, présent et prêt à payer pour des médias de ce genre. Espérons qu'il ne faudra pas attendre 20 ans pour que les rédactions plus mainstream comprennent qu'elles ont elles aussi tout intérêt à se diversifier et à devenir réellement un média jeu vidéo qui nous ressemble. Et du coup, moi, la question que je voulais vous poser, la discussion que je voulais initier, c'est d'après vous, quelle place pour les femmes et les personnes minorisées en général dans la presse JV ? Et cette dernière, la presse JV, est-elle enfin prête à faire sa révolution féministe ?
Comme d'habitude, je suis toujours un petit peu sceptique, etc. Parce qu'on a quand même assisté à une évolution et à un renversement de la presse jeux vidéo web, notamment, depuis ces, je pense, 5 dernières années. Où, rien que les sites français, on a perdu petit à petit Gamecult qui vivote maintenant, mais qui a eu un grand tournant marketing. Mais la plupart des sites de presse anglophone ont soit fermé, soit été rachetés, donc avec tout ce qu'on sait en termes de placement de publicité, etc. Et je me dis, d'un côté, j'ai l'impression que ça ferme quand même beaucoup de porte, et potentiellement ça peut faire certaines, enfin taire certaines voix qui ne sont pas des voix soit dominantes, soit des personnes qui vont créer du contenu, on va dire, pour les algorithmes, etc. Mais de l'autre côté, effectivement, le fait de voir cette initiative, ça montre qu'il y a quand même non seulement des possibilités, il y a un créneau à prendre, il y a du public. Donc c'est vrai que c'est assez prometteur d'un côté, mais de l'autre, c'est des choses qui demandent beaucoup d'énergie et de réussir à se rassembler pour produire quelque chose, ça demande aussi des compétences. Donc je pense que c'est propre aux jeux vidéo de manière générale, c'est réussir à échapper à un format qui devient à des structures et des systèmes qui deviennent de plus en plus excluantes, alors qu'on a des publics qui sont de plus en plus intéressés, concernés, etc., et qui sont en capacité de faire des choses comme ce projet.
Oui, je suis d'accord avec toi. Après, typiquement, le tweet dont je parlais à la base, il date quand même d'il y a un petit bout de temps, et c'est ce qu'elle dit dans l'article, c'est que en fait, si elle a aussi eu l'idée de, enfin, si elle a osé se lancer là-dedans, c'est après avoir vu d'autres projets du genre se créer. Donc des projets indépendants, arriver à vivre difficilement, mais quand même à perdurer. Et quand elle a été virée de... Quand elle a été virée de Polygon, je crois qu'elle est partie, je ne sais plus exactement, une de ses consoeurs, donc la cofondatrice, lui a dit je vais créer un projet indépendant. Et elle explique qu'elle s'est dit super, vas-y, fais-le, enfin, je suis derrière toi. Et après, elle s'est dit, mais en fait, non, j'ai aussi envie de participer à ce truc-là. Et elle avait longuement réfléchi et constaté que même si elle avait des doutes, finalement, des projets, ils sont lancés. Et on le voit en France, on le voit aussi, c'est un peu différemment, mais avec les anciens, justement, si je me souviens de ce moment, c'est les anciens et anciennes de Polygon qui, du coup, vont lancer un nouveau média indépendant aussi. Donc, Je pense que finalement les médias indépendants qui potentiellement pourront peut-être s'ouvrir un peu plus à la diversité et ainsi de suite sont en train de se multiplier. Le problème restant, selon moi, que au tout début, au moment de la création, ça reste parce que on veut soi-disant le faire avec des personnes identifiées et que la presse JV, qu'elle soit la presse web ou la presse papier, étant ce qu'elle a été ces 15, 20, 30 dernières années, les personnes identifiées restent des hommes blancs. Je pense qu'il y a quand même moyen que ça s'accélère un peu dans les années qui viennent. Mais c'est peut-être un vœu pieux. Olivia ?
Ouais, non, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment cette question, en fait, de comment est-ce que, juste du point de vue, un modèle économique et comment est-ce qu'un média comme ça... je trouve qu'il y a toujours un peu cet enjeu-là d'une démarche, et finalement, je crois qu'elle en parle aussi dans l'article, mais une espèce de démarche comme ça, où les personnes vont s'épuiser, quoi, presque de devoir travailler sur quelque chose qui, au final, n'est pas... Et compliqué juste pour en vivre, trouver un public. Mais là, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça intéressant qu'il y ait quand même, comme tu dis, en fait, qu'il y ait un public aussi identifié, qu'il y a ce créneau à prendre de se dire que ça va vraiment intéresser des personnes. Et c'est une nécessité aussi. Parce qu'en fait, c'est vrai que, pour le coup, que ce soit la presse papier ou web ou toutes les actualités qu'on va avoir du jeu vidéo, en fait, de se dire un média qui, là, pour le coup, a vraiment une ligne féministe et va aussi diffuser, partager d'autres choses, mettre en valeur d'autres jeux, mettre en valeur des éléments. Ça revient, je trouve, à ce qu'on se disait au tout début de l'émission. Mais en fait, pour moi, la diversification, la diversité des joueurs et joueuses, elle se fait à tout niveau, quoi. C'est-à-dire comment il faut avoir une diversité dans les studios, au niveau de la création, et puis en fait, dans les médias, et de qu'est-ce qu'on va mettre en valeur et comment est-ce qu'on va parler du jeu. Il y a vraiment une importance, en fait. Et donc, je trouve que c'est une pierre dans cet édifice qui est importante. Ensuite, c'est... comment est-ce que ça peut... La réflexion là que je me faisais aussi en vous écoutant, c'est je me dis, ce qui est presque dommage, c'est que les médias existants n'intègrent pas aussi plus de diversité, enfin, c'est-à-dire à quel moment, presque, il faudrait que ça se passe d'abord dans les médias existants et puis ensuite que ça puisse popper ailleurs. Mais ce truc de devoir créer un média à part, ça montre bien, en tout cas c'est très parlant, du fait qu'il y a un problème dans la manière dont les médias et les... Et voilà, au niveau des rédactions, d'un manque de diversité, quoi.
Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous vous remercions, nos chroniqueurs et chroniqueuses. Nous remercions également Olivia pour avoir accepté l'invitation, Vincent pour la programmation musicale et Lazare pour la technique et la discussion de fin d'émission. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi. Cela nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Nous nous quittons sur Funky Dealer, composé par Hideki Naganuma pour l'OST de Jet Set Radio Future. Your bets, ladies and gentlemen. I and a winner got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. Four and he made us the hard way. Hey, the front line takes the hard. You have a shooter and a good one. Coming out for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. He's a rolling point as nine. Place nine. Place nine. Eight shooting for nine. Five shooting for nine. He's a rolling point as nine. Place nine. Six to point. Check out, jump. Nine a winner. Got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. Nine a winner. Got a hot hand. Place your bets. Place your bets. Who wants to come? Six to point. Who wants to come? Six to point. Place your bets, ladies and gentlemen.
Six.